Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et merci de rester fidèles au programme du studio Kalangu. Bienvenue à tous dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets, qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont relayés en direct sur 33 radios partenaires à travers le Niger et ce, du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Au menu du forum d'aujourd'hui, programme énergie nucléaire Niger Horizon 2030, comment atteindre l'objectif pour quel résultat? L'ambitieux programme d'énergie nucléaire pour le Niger d'ici l'horizon 2030, initié par la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA, pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui a motivé l'initiation du programme d'énergie nucléaire? Quelles sont les différentes composantes de ce programme électronucléaire? Quelle sera la capacité de la centrale ou des centrales nucléaires et pourquoi faire? Quel sera le coût global d'un tel programme? Qui sont les principaux partenaires? Ce sont là, entre autres questions, bien d'autres que nous nous posons ce soir. Nous recevons ce soir le secrétaire général de la ANEA et chargé du programme électronucléaire du Niger, M. Djibo Takoubako et Daouda. C'est bien ça, bonsoir.
Enchanté, bonsoir, c'est bien ça.
Merci d'être venu pour nous en parler à la présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mohamed. Bonsoir à tous, chers auditeurs de l'énergie nucléaire pour alimenter le Niger d'ici à l'horizon 2030. C'est en tout cas l'une des ambitions de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA, à travers son programme électronucléaire. Le rapport de ses projets de production d'électricité à partir de l'uranium validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a été remis au gouvernement nigérien le 16 juillet passé. Ce soir, nous sommes en compagnie de Djibo Takoubakoy Daouda, l'un des acteurs clé de ce programme ambitieux. Il est là pour nous en parler. Bonsoir Djibo Takoubakoy.
Bonsoir Monsieur Alassane.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter brièvement la ANEA et ses principales missions?
Merci beaucoup. La Haute Autorité Nigérienne de l'énergie atomique, ANEA, est une institution de mission créée en décembre 2013 pour faire la promotion de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique au Niger et aussi pour la surveillance des applications non pacifiques. Ça veut dire que nous surveillons aussi ceux qui seront tentés de faire une application autre que pacifique de l'énergie atomique.
Bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le Niger à travers la ANEA à initier un tel programme d'énergie nucléaire quand on sait qu'il y a le programme du barrage de Kandaji qui pourrait voir le jour avant 2030, ainsi que l'existence de la centrale à charbon de Tchirozérine et les trois centrales diesel de Niamey, Gamkale, Goudel et Gourbanda?
Le programme électronucléaire, déjà, c'est un programme qui fait partie, un axe de programme de la Renaissance du Niger, acte 1 et acte 2. Cela découle déjà de notre constitution. À l'article 147 de la constitution de la République du Niger de 2010, il est stipulé que l'État s'attelle à développer son potentiel énergétique en vue de satisfaire les exigences énergétiques axées vers la souveraineté énergétique. C'est exactement le terme que le législateur a choisi. Donc, développer son potentiel énergétique, il faut d'abord connaître c'est quoi le potentiel énergétique du Niger. Axer vers la souveraineté, ça veut dire que nous devrons faire en sorte que l'énergie que nous disposons, nous soyons souverains dans l'utilisation, mais aussi dans la production. Quand on regarde le potentiel énergétique du Niger, nous avons effectivement donc le solaire, nous avons l'hydraulique, nous avons le charbon, nous avons donc les hydrocarbures, le pétrole, le gasoil. Nous avons aussi l'uranium. Alors, le législateur dit, donc la Constitution fait une exigence que l'État s'attelle, doit tout faire pour développer ce potentiel énergétique. Alors, si l'État doit développer son potentiel énergétique, il doit développer tout son potentiel énergétique, dont l'uranium. Alors, cela, de cette exigence, découle l'axe du programme de la renaissance du Niger qui fait le développement des infrastructures comme un axe principal dans le développement de l'énergie électrique. C'est de ça.
Est-ce qu'il y a l'idée de commercialiser aussi cette énergie? Parce que, en tout cas, le barrage de Kandaji, si ça arrivait à avoir le jour, pourrait suffire, pourrait en tout cas permettre au Niger d'être indépendant.
Bien sûr. Aujourd'hui, la population, le Niger fait partie d'une communauté qu'on appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette communauté a développé ce qu'on appelle un système d'échange d'énergie électrique entre les pays producteurs et les pays consommateurs et vice-versa. Ce système s'appelle le WAP en anglais, West African Power Pool. Cette association créée par la CEDEAO est aujourd'hui à un stade de développement des infrastructures d'échange qui est basé, le CIC qui est basé à Cotonou. Ça veut dire quoi ? Un pays qui produit assez d'énergie vendra son énergie au CIC qui le distribuera dans toute la zone CEDEAO. La CEDEAO, à l'horizon 2030, aura autour de 550 millions d'habitants, dont moins de 12% ont accès à l'électricité. Vous imaginez qu'il n'y aura pas de développement dans ce contexte et qu'il faudra trouver des solutions idoines. Alors le Niger ayant le potentiel de développer de produire de l'énergie à deux solutions. Soit on laisse notre potentiel, on vend la matière brute et on consomme l'énergie des autres pays. Soit on développe notre potentiel et nous serons producteurs, vendeurs, exportateurs d'énergie.
Et c'est cette deuxième option qui est choisie. Monsieur Djibo Takoubakoy, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les différentes composantes de ce programme électronucléaire ainsi que leur utilité? Puisque quand on entend parler de programme, cela veut dire qu'il n'y a pas que l'énergie à proprement qui est donc. Est-ce qu'on peut avoir une idée des composantes de ce programme électronucléaire?
D'abord, l'électronucléaire, pour le besoin des auditeurs,
oui.
C'est la production de l'électricité à partir de l'uranium. Donc le programme électronucléaire, c'est l'ensemble des activités pour arriver à faire donc de l'électricité à partir de l'uranium. Qui dit programme dit un ensemble de projets. Il y a plusieurs projets qui constituent le programme électronucléaire. À la différence des autres programmes de production d'énergie électrique, c'est qu'un programme électronucléaire n'est pas spécifique à un pays. On ne peut pas laisser la latitude à un pays juste d'imaginer et de faire un programme électronucléaire. La communauté internationale, à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique,
l'AIEA,
a mis en place un schéma, une façon, une stratégie pour élaborer et mettre en œuvre un programme électronucléaire. Ce document de l'AIEA s'appelle le Milestone. Il dit qu'un programme électronucléaire est axé en trois phases. Une première phase où on évalue l'infrastructure qu'on a. Une deuxième phase où on développe l'infrastructure. Et la troisième phase où on construit et exploite les centrales électronucléaires. Donc, le programme électronucléaire en lui-même, voilà comment il est axé. Il a 19 domaines, on s'intéresse à 19 domaines.
19 domaines,
dont la sûreté, la sécurité, les questions de financement, les questions du cycle du combustible nucléaire, les questions du réseau électrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons 19 domaines qui sont à développer au cours du processus d'élaboration et de mise en œuvre du programme électronucléaire.
Quelle sera la capacité énergétique de ce programme une fois réalisé et quels seront les différents résultats attendus
d'accord.
ou impacts pour le développement du Niger?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir que l'objectif du programme électronucléaire du Niger, c'est un objectif à long terme. L'ambition, c'est de faire en sorte que l'énergie nucléaire soit l'une des options la plus utilisée dans l'Afrique de l'Ouest pour produire de l'électricité. Ça veut dire que nous avons une approche qu'on appelle approche par flotte. L'ambition, c'est de construire à terme, pas une, deux, trois, mais plusieurs centrales nucléaires dans la CEDEAO, de maîtriser la technologie et d'être exportateur de technologies de production d'énergie nucléaire en Afrique et peut-être dans le monde. C'est ça l'objectif. Parmi les objectifs spécifiques, c'est de construire deux centrales nucléaires, deux unités de centrales nucléaires de 1000 MW chacune, donc 2000 MW à l'horizon 2030.
Au Niger.
Au Niger. Et de connecter la première centrale en 2030 au réseau ouest-africain, donc au réseau WAP. Voilà clairement l'objectif affiché dans le programme électronucléaire.
Bien, on voudrait quand même savoir qu'est-ce que cela va constituer en termes d'impact pour le développement du Niger.
D'accord. Donc, en termes d'impact pour le développement du socio-économique du pays, nous attendons déjà, au minimum pour les deux unités, les deux premières unités dont je viens de dire, entre 100 et 150 000 emplois permanents de haut niveau.
100 et 150
000 emplois permanents de haut niveau. La création de 1000 PME spécialisées. Donc, nous aurons des petites et moyennes entreprises spécialisées pour fournir des services et des biens au programme électronucléaire. Par exemple, si je prends les mesures de radioactivité, nous attendons à la connexion de la première centrale électronucléaire au pays, un taux de croissance de 25% du PIB. Parce que c'est autour de 4 000 milliards de francs CFA que ça génère comme revenu.
En termes de revenus.
Par
prenant quelle période?
Chaque année. C'est-à-dire chaque année, nous allons produire 1000 MW pendant 8 000 heures. Donc, prenons le mégawatt à $90. C'est donc autour de 45 000 le mégawatt heure. Faites le calcul et vous allez voir que c'est autour de 4 000 milliards de francs CFA que une centrale génère. Donc, les deux centrales, sans pouvoir faire de multiplication, on s'attend autour de 8 000 milliards, donc notre PIB actuel pour les deux centrales nucléaires. Ça, c'est en termes de revenus monétaires.
Oui.
Mais le plus grand apport d'un programme électronucléaire, c'est l'effet de dégénérescence de qualité. Ça veut dire quoi? Un programme électronucléaire exige des hauts niveaux de qualité, des hauts standards de qualité. Et ces hauts standards de qualité exigés seront exigés aussi des fournisseurs de services et de biens. Les 1000 PME que nous attendons, par exemple, seront obligés de venir à un certain niveau de qualité.
En termes d'offres de services?
En termes d'offres de services et de qualité de services.
De service.
Eux aussi, donc, ils vont exiger de leurs fournisseurs de la qualité, ainsi de suite. Et vous voyez l'effet d'entraînement qualitatif que ça entraîne. Je disais que un programme électronucléaire a une exigence accrue en termes de normes de qualité et de standards. Ça veut dire que le programme exigera de ses fournisseurs, les 1000 PME dont je venais de dire, un niveau de qualité de haut niveau, un niveau de qualité très très haut. Eux aussi exigeront de leurs fournisseurs de biens et services un niveau de qualité élevé, ainsi de suite. Et ça fait un effet d'entraînement qualitatif important sur la qualité des services. Et tenez-vous bien, par exemple, l'introduction d'un programme électronucléaire aura un grand impact sur la qualité des services de l'État, ça veut dire de l'administration, et luttera contre la corruption.
Bien. Alors, quel est le coût financier global d'un tel programme, ce programme électronucléaire? Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de ce que cela coûtera?
L'idée de combien coûte, quand vous parlez du programme, peut-être que vous parlez de la construction de la première centrale ou de... Aujourd'hui, une centrale électronucléaire est estimée entre 5 à 7 milliards de dollars, une centrale nucléaire. Mais dans ces 5 à 7 milliards, il faut voir qu'il y a déjà le développement du réseau électrique. Tout le réseau électrique doit être amélioré pour le rendre fiable et stable. Il y a le développement des infrastructures routières et ferroviaires. Parce que la construction des centrales nucléaires, c'est le transport d'éléments lourds qui exige une qualité de route et de chemin de fer exceptionnelle. Et là-dedans, il y a le développement des ressources humaines. Nous employerons, par exemple, pour la construction de la première centrale, d'une seule centrale, 5 000 personnes en permanence pendant au moins 5 ans. Il y a le développement des infrastructures donc sociaux de base, telles que le développement des services sanitaires, le développement des instituts de formation autour, parce que 5000 personnes seront dans une commune pendant 5 ans. Vous voyez la pression que ça fait sur les infrastructures sociales. Mmh. Et alors, tout ce coût fait entre 5 et 7 milliards de dollars.
Prenant une centrale.
Une centrale. Mais quand on fait deux centrales, nous estimons autour de 10 milliards. Nous estimons autour de 10 milliards de dollars le coût de développement du programme électronucléaire du Niger. Bien sûr que pour ça, un Nigérien qui entendra ça aura tendance à s'émouvoir. Mais nous avons développé, parmi les 19 domaines que je disais tout à l'heure, il y a un volet budget et financement. Nous avons fait un modèle de financement qui fait partie des bonnes pratiques identifiées par l'Agence internationale d'énergie atomique. Et nous n'avons aucun doute que le programme aura le financement requis pendant autant requis.
Et justement, qui sont les principaux partenaires financiers qui accompagnent le Niger dans ce programme? Est-ce que c'est des structures, c'est des pays?
Pour l'instant, nous ne voulons pas donner des noms parce qu'il y a d'autres enjeux à l'antenne. Mais le moment venu, nous vous dirons, nous vous montrerons avec ses partenaires assis autour d'une table et peut-être même dans ce studio. Voilà le partenaire financier qui accompagne. Mais pour vous dire que dans le domaine du financement public et privé, nous avons identifié toutes les sources de financement. Nous avons approché des institutions spécialisées dans le domaine et nous avons eu les réponses adéquates. Et il n'y a aucun doute, notre modèle économique et financier permettra de développer le programme électronucléaire.
Et le Niger va participer à quelle hauteur?
Aujourd'hui, nous sommes justement au début de la deuxième phase et c'est là que les questions telles que la participation de l'État vont se poser. Mmh. Et l'État va voir en fonction de ses moyens quel est le niveau de participation requis. Maintenant, le moyen, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas uniquement les moyens financiers. Il y a aussi le moyen tel que le développement industriel. Aujourd'hui, notre tissu industriel est très, très faible. Il va falloir développer le niveau de notre industrie. Parce que quand vous dites « je participe à 10% », ça veut dire que vous devrez prendre aussi 10% des marchés, construire 10% de certaines parties de la centrale, fournir 10% de certaines pièces, ainsi de suite, ainsi de suite. Si votre industrie n'est pas capable d'absorber cette partie, eh bien, c'est des questions à discuter. Ce n'est pas uniquement le coût financier.
On a envie de savoir quels sont les sites déjà identifiés pour accueillir, en tout cas pour ces centrales, ces deux centrales dont vous avez parlé de 1000 mégawatts chacune.
Merci beaucoup. C'est une question importante.
Et qu'est-ce qui motive leur choix?
C'est une question importante. Parmi les 19 domaines, il y a justement sites et installations auxiliaires. Ça veut dire nous avons des experts nationaux qui sont au nombre de 12 ou 13 qui se sont concentrés pendant ces 3 années uniquement à la recherche de sites. Actuellement,
3 années en train de
faire le travail technique,
d'explorer
le Niger pour, par exemple, enlever les failles, ça veut dire les zones de tremblement de terre du Niger. Les gens, ça paraît bizarre, mais il y a toujours des tremblements de terre au Niger. Et il y a toujours des tremblements de terre, pas à des niveaux perceptibles par l'homme, mais quand même...
Voilà. Je comprends.
Donc, ces experts, ils ont identifié pour l'instant 8 zones. Ce n'est pas des sites, c'est 8 zones.
Pas des sites, 8 zones.
Voilà. Sur une zone, on a identifié 4 sites. Potentiel. Sur une autre, 3 sites potentiels. En tout et pour tout, nous avons identifié 18 sites potentiels dans 4 zones, au Niger bien sûr, dans 4 zones. Et cela a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui a reconnu que l'approche, la méthode que nous avons utilisée pour identifier ces sites, c'est la méthode conventionnelle acceptée de tous.
Est-ce que l'eau abondante et la sécurité, avec grand S, sont-elles prises en compte dans cette grande ambition, notamment dans la désignation des CES?
Ah, merci vraiment, ça c'est une bonne question.
Nous savons qu'une centrale nucléaire a besoin de l'eau pour fonctionner et dans nos contextes aussi la sécurité.
Merci bien pour vraiment cette question parce que c'est une question essentielle. Oui. Le Niger étant un pays sahélien, les gens se disent qu'une centrale nucléaire consomme beaucoup d'eau et que nous n'avons pas d'eau de surface. Eh bien, tenez-vous bien, nous avions proposé à l'Agence internationale de l'énergie atomique un 20e domaine parmi les 19 internationalement reconnus. Et ce 20e domaine, c'est la disponibilité des ressources en eau. L'agence a dit non, il faut l'intégrer dans l'étude des sites, donc qui est le 12e domaine dont je viens de vous parler. Mmh. Il y a 5 experts qui se sont attelés à rechercher sur les zones potentielles où on faisait les études, à voir est-ce qu'on a de la ressource en eau souterraine non profonde qui ne va pas impacter le coût du programme électronucléaire. Et tenez-vous bien, nous avons produit des rapports qui seront publiés comme œuvre scientifique. Ce comité a découvert que le Niger est le 2e pays au monde qui dispose le plus d'eau souterraine au monde après le Canada. Et c'est une œuvre scientifique qui sera publiée.
C'est la ressource en eau souterraine qui va être utilisée pour ces centrales.
Probablement, si certaines zones sont prises comme zone de centrale, comme site, on va utiliser de l'eau souterraine. Mais nous avons aussi d'autres sites
où on a de l'eau de surface,
pas forcément l'eau du fleuve, mais de l'eau de surface.
C'est l'eau du fleuve qui est en grande
disponibilité. Oui,
en grande
on a quantité. de l'eau de surface, pas l'eau du fleuve, mais l'eau de surface.
Bien.
Donc sur certains sites. Mm-hmm. Pour vous dire que c'est une question essentielle que nous aussi on a pris en compte dans l'élaboration de ce programme.
Et la sécurité.
La sécurité.
Le terrorisme qui est ambiant de nos jours.
La sécurité, effectivement, est une question essentielle, mais pour vous dire qu'une centrale nucléaire coûte cher parce que, justement, les méthodes de construction et de protection des sites n'ont pas peur des terroristes. La sécurité dont on tient compte, c'est la sécurité, comme on dit, le sabotage à l'interne. Mais une menace extérieure ne représente aucune menace pour une centrale nucléaire parce qu'elles sont conçues pour que même si un avion, un Boeing 747
fait une chute
dessus, il n'y aura aucun problème pour la centrale nucléaire. Donc, la menace extérieure est quasi inexistante pour une centrale nucléaire, quel que soit l'endroit où vous le placez.
Les travaux de construction et de supervision des installations des dites centrales qui résisteraient, qui défient, entre guillemets, même le terrorisme, sont assurés par des nationaux ou des expatriés?
Aujourd'hui, nous avons adopté, parce qu'il y a une des conditions que nous avons étudiées, qui est le développement industriel. Nous avons regardé que, pour l'instant, parce que nous espérons démarrer en 2020-2021, déjà l'excavation des sites, donc la pose de la première pierre et tout en 2020-2021. Pour l'instant, la capacité technique et technologique de notre pays, de notre industrie est limitée. Donc pour les deux premières centrales, la construction sera assurée par des étrangers. Mais dans le processus, comme je dis, c'est l'approche par flotte. C'est de maîtriser la technologie et d'exporter la technologie. Au bout d'un certain moment, il y aura le transfert de technologie pour que nos industriels aussi puissent apprendre à construire et à exploiter des centrales nucléaires.
Est-ce que ce point-ci, vous êtes vraiment très regardant par rapport à ça? On sait qu'au Niger, en tout cas, cela manque beaucoup. On a vu, en tout cas, l'expérience nous a montré que dans beaucoup d'autres grands projets, les Nigériens n'arrivaient pas à bénéficier de ce transfert de technologie. Ils se limitent souvent simplement aux ouvriers.
Et effectivement, je dis, le 18e domaine du programme électronucléaire, c'est le développement industriel. Dans le développement industriel, nous avons mis l'accent sur le transfert de connaissances et le transfert de technologies.
Est-ce que dans les contrats, cela peut être une des contraintes à imposer aux
contractants? C'est une obligation. Les 18 domaines chaque domaine aura un article ou des articles qui disent que voilà, voilà, voilà ce qu'il faut faire dans le domaine. Donc, nous avons élaboré un projet de plan de développement industriel qui est actuellement en train d'être proposé au ministère de l'Industrie pour être adopté.
Nous entamons la deuxième partie de l'émission. Parlons maintenant de la conduite du processus de ce programme électronucléaire. Une catégorie de Nigériens voit ce programme d'énergie nucléaire utopique, surtout avec le projet du barrage de Kandaji en débat depuis la Première République sous le président Jori et qui encore on attend sa réalisation. Comment rassurez-vous ces gens que ce programme électronucléaire est bien réaliste et a toutes les chances d'aboutir?
Merci beaucoup. Comme on le dit, chaque grande œuvre a trois phases. La première phase, c'est la risée. Les gens se moquent de l'œuvre. La deuxième phase, ce sera la contestation violente. Et la troisième phase sera le suivi. Eh bien, le programme électronucléaire, déjà, le fait de mettre en place une institution chargée de mettre en œuvre, d'élaborer, de mettre en œuvre ce programme, montre que... C'est quelque chose de faisable et qui sera fait dans les délais. Donc, il y a le cadre institutionnel qui a été mis en place. On a créé la Haute Autorité à l'énergie atomique. Mmh. On a mis en place le comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire qui est composé de 12 ministres et présidé par le Premier ministre. Mmh. On a mis en place le comité technique national pour le programme électronucléaire qui comprend 56 institutions du pays et représenté par deux ou trois experts du domaine. Donc, des 56 domaines.
Tous nationaux.
Tous Nigériens. Et ces Nigériens sont à l'œuvre. J'aurais voulu que vous voyiez les périodes les plus intenses de travail où les dimanches, à minuit encore, les gens sont dans leur bureau en train de travailler sur le programme. Donc, le cadre institutionnel est mis en place. Le cadre légal, nous venons d'adopter la loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, portant sûreté, sécurité et utilisation de l'énergie atomique, qui est passée à l'Assemblée nationale et a été promulguée. On a créé l'autorité de régulation et de sûreté nucléaire, l'ARSN, qui est au cabinet du Premier ministre par loi. Et nous avons adopté une douzaine de conventions internationales et aussi de protocoles additionnels. Le cadre institutionnel est en place, le cadre légal est en place et avec la volonté politique affichée aujourd'hui, qui fait partie d'abord d'une des bonnes pratiques identifiées par l'AIEA, on peut dire sans risque de se tromper que ce programme est un programme réaliste, réel et qui verra le jour dans les délais prescrits.
Bien. Alors, quelles sont les étapes déjà franchies dans la réalisation et celles qui restent dans le processus de ce programme électronique là, rapidement?
Il y en a, comme je viens de le dire, trois phases. La première phase, c'est l'évaluation de l'infrastructure nucléaire nationale et la proposition de stratégie de mise en œuvre. Donc, nous venons de faire une mission qu'on appelle la mission INIR, la mission d'évaluation intégrée de l'infrastructure nucléaire du Niger en phase 1, conduite par 13 experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est venu évaluer notre travail, qui a questionné, donc interviewé les experts et qui a remis son rapport le 16 juillet passé. Dans ce rapport, il ressort que le Niger a toute la capacité technique nécessaire pour conduire un programme électronucléaire. Et ce rapport nous a fait cette recommandation, cette mission nous a fait cette recommandation et nous avons élaboré déjà un plan de mise en œuvre de ces recommandations que nous venons d'envoyer à l'agence pour étude. Il ressort de cette mission que le Niger est le premier pays en Afrique de l'Ouest ayant la capacité technique et humaine pour conduire un programme électronucléaire. Dans le monde, nous sommes classés à cette phase deuxième après la Bulgarie. Pour vous dire quel est tout le sérieux que les gens mettent pour faire ce travail.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Quelle est l'étape suivante pour vous?
Aujourd'hui, l'étape suivante, c'est donc la mise en œuvre d'abord des recommandations identifiées. Donc c'est des écarts dans certains domaines qu'on a identifiés, c'est mettre en œuvre cela. Finaliser l'étude des sites et surtout prendre des mesures légales pour que ces sites identifiés tombent déjà dans le domaine public. Ça veut dire pour ramener ces sites dans le domaine public et finaliser les propositions de contrat, finaliser le choix du fournisseur et signer le contrat en bonne et due forme. C'est
La question des finances, vous n'en parlez pas.
Et bien sûr, je dis, nous avons un modèle financier qui a été, si vous voulez, je veux rentrer un peu dans les détails du modèle financier.
Pas beaucoup.
Ok, d'accord. Donc, nous avions proposé deux options. Une première option, c'est le BOO, connu de tous, donc Build, Own and Operate, où nous allons prendre une société qui va venir avec son argent construire les premières centrales. Mm-hmm. Construire les premières centrales, l'exploiter et s'engager à transférer la connaissance et la technologie au pays.
Première option.
Ça, deuxième c'est la première option. La deuxième option, c'est la création d'un consortium qui commencera d'abord par les sociétés nationales. Ce consortium national va faire certains travaux, tels que les travaux d'amélioration de l'accessibilité au site, les travaux d'amélioration du réseau électrique, et ce consortium va s'ouvrir
à d'autres
aux pays qui nous entourent, et principalement aux sociétés d'électricité des autres pays, de la CEDEAO. Mmh. Et voilà, et après, en troisième phase, ce consortium va aussi s'ouvrir aux fournisseurs de technologie.
À ce jour, M. Djibo Takuba Koy Daouda, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face?
La principale difficulté, s'il faut le dire ainsi, c'est déjà l'engagement des parties prenantes. C'est le 11e domaine de l'infrastructure où il faut engager l'ensemble des citoyens autour du programme. Nous avons fait beaucoup d'actions au niveau du gouvernement et le gouvernement est aujourd'hui sensibilisé. Chaque ministre est capable de vous expliquer ce que je viens de vous dire. Nous avons fait une journée d'information parlementaire et les parlementaires ont compris. Actuellement, ils sont en train de mettre en place un réseau parlementaire pour le programme électronucléaire. Et toutes nos lois qu'on a proposées et les conventions qu'on a proposées sont passées à 100% à l'Assemblée nationale.
Ça, ce n'est pas des difficultés, ça?
Non, je suis en train de dire, ça, on a dépassé
ce stade.
Actuellement, la plus grande difficulté, c'est le dialogue avec les autres experts des autres domaines. Prenons par exemple les experts du domaine du solaire, les experts du domaine de l'hydraulique, les experts du domaine ainsi de suite. Alors qu'à mon avis, il n'y a aucune concurrence, il n'y a aucun problème avec les autres domaines, puisque l'énergie est un bouquet. Nous avons besoin de toutes les formes d'énergie. Ce n'est pas qu'on va utiliser une énergie au dépens de l'autre. Mais chaque énergie a la capacité de faire une activité que l'autre ne pourra pas faire.
Alors, nous allons partir de ces points que vous venez de soulever et pour en tout cas entamer troisième et dernière partie de ce forum qui nous amène à parler justement de la question de sécurité et d'environnement. L'utilisation des énergies fossiles, disons-le, en tout cas l'utilisation de l'uranium, c'est une énergie fossile, et a des conséquences énormes à court et moyen terme sur la vie humaine et son environnement. Quelle est votre opinion à vous par rapport à ce sujet?
Sur la question d'abord de la protection de l'environnement, je crois que l'électronucléaire est la forme la plus propre de production d'énergie électrique. Ça, tous les experts sont unanimes dessus. Ça n'émet aucun gaz à effet de serre. Les centrales nucléaires n'émettent aucun gaz à effet de serre. Donc, sur ce point, il n'y a pas de problème.
Par rapport au... c'est quand même le combustible, l'uranium.
C'est la gestion des déchets radioactifs. Parce que quand on utilise l'uranium dans les centrales, quand l'uranium sort, ça sort sous d'autres formes hautement radioactives et qui doivent être gérées sur des périodes plus ou moins longues en fonction des types de déchets. Il y a Le domaine de gestion des déchets radioactifs, je n'ai pas le numéro de domaine, mais il y a la gestion des déchets radioactifs qui fait partie d'un domaine où nous avons élaboré une stratégie de gestion des déchets qui n'est pas une stratégie nouvelle, c'est une stratégie qui existe déjà. D'abord, la production d'une centrale nucléaire pendant 50 ans, 60 ans, les déchets que ça produit ne dépassent pas ce studio en termes de volume.
Sauf que le danger que cela représente est plus grand.
Effectivement, ce danger, si on le gère mal, il y a des dangers. Aujourd'hui, la technologie existe pour gérer ces déchets pendant plusieurs années sans aucun danger. À mon avis, aujourd'hui, aucun incident, aucun accident relatif à la gestion des déchets radioactifs dans le monde n'a été identifié. Le danger qui a été identifié et qui est reconnu, c'est le problème de fonctionnement des centrales nucléaires en opération. C'est-à-dire pendant l'opération, puisque c'est des très grandes énergies, vous imaginez 1000 mégas. En termes de comparaison, le Niger entier fait 200 mégas, 200, 300 mégas. Donc, 1000 mégas contenus dans quelques mètres carrés, il faut savoir les gérer. Et il y a eu des erreurs humaines à Fukushima et Nagasaki.
J'allais justement en parler, j'ai prévu tout cela. J'allais en parler, à Tchernobyl, c'était en 1986. De la centrale Lénine située à l'époque de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ex-URSS. Il s'agit de la plus grave catastrophe, en tout cas du XXe siècle, classée au niveau 7, le niveau le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Le nombre de décès directement imputables à la radioactivité varie entre 9000, selon le rapport élaboré en 2006 par plusieurs agences de l'ONU sous la houlette de l'AEA, et près d'un million, en tout cas selon un livre intitulé Tchernobyl, conséquences sur les hommes et sur les milieux. C'est un livre qui a été édité par des chercheurs russes, biélorusses et ukrainiens. La dernière catastrophe, donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Fukushima au Japon en 2011, là aussi avec un lot énorme de victimes, que ce soit par le tremblement de terre en lui-même et par la centrale. Est-ce que tout cela ne vous effraie pas?
Merci pour cette question, parce que moi, ma spécialité, c'est la sûreté et la sécurité nucléaire. Tchernobyl, effectivement, était un grave accident qui a eu des impacts radiologiques énormes. Mais je peux vous dire, il n'y a eu aucun décès lié directement à la radiation. Aucun. Et je sais de quoi je parle. Je parle sur des antennes, vous pouvez le vérifier. Les décès enregistrés sont dus à l'effondrement des bâtiments après l'explosion. Il y a eu des décès après ça que les gens veulent bien imputer à la radioactivité 20 ans, 30 ans après.
Mais vous n'allez pas nous dire quand même que la radioactivité n'a pas de conséquences sur le long terme, notamment des genres de cancers, des malformations qui sont soulevées.
La radioactivité a deux effets. Il y a ce qu'on appelle les effets immédiats et les effets retardés. Les effets immédiats, c'est ce que vous recevez, c'est ce que vous développez immédiatement après avoir été irradié. Il y a dans ça des brûlures, il y a des problèmes comateux, il y a des vomissements, il y a jusqu'à la mort. Immédiatement, si on a été irradié à de très hautes quantités pendant une période de temps très courte. Il y a des effets retardés ou stochastiques qui sont les effets qu'on développe après avoir reçu des faibles quantités de radioactivité et qui aujourd'hui, la seule chose connue, c'est le cancer. Il y a la leucémie, ça veut dire le cancer du sang, et les autres types de cancers. Cependant, personne ne peut démontrer aujourd'hui qu'un cancer est dû uniquement à la radioactivité ou bien à d'autres problèmes tels que la consommation de tabac.
J'espère que vous ne minimisez pas les conséquences de Tchernobyl.
Je ne suis pas en train de minimiser, et mon rôle n'est pas justement de minimiser les conséquences de Tchernobyl. Mon rôle, c'est de faire en sorte que Tchernobyl ne survienne pas dans mon programme. Et je peux vous dire que Tchernobyl était un problème humain.
Alors justement, est-ce que y a, pour nous, pour le cas du Niger, il y a assez de mesures environnementales et de sécurité qui sont envisagées pour la sécurité?
L'axe 13, c'est la protection de l'environnement. Et déjà, il y aura une étude d'impact environnemental qui comprendra une étude d'impact radiologique nécessaire. Et on a prévu l'ensemble des mesures pour protéger la population, l'environnement, le sol, donc les végétaux, ainsi de suite, dans ce programme.
Alors,
même en cas d'accident.
Alors, je voudrais poser cette question. Est-ce que le Niger a-t-il eu le quitus des grandes puissances comme les USA, les États-Unis, très regardantes donc, sur les programmes nucléaires dans le monde?
Oui, c'est...
Et la France qui est l'ancien colonisatrice.
Le domaine 16, c'est ça qu'on appelle le cycle du combustible nucléaire, parce que le plus grand problème d'un programme électronique, justement, c'est ça, c'est que si vous maîtrisez pour produire de l'électricité, c'est que vous maîtrisez aussi pour faire autre chose. Parce qu'il est plus facile de faire de faire autre chose que de faire l'électricité. Alors, nous avons identifié les zones dites sensibles dans le programme électronucléaire, telles que la transformation et l'enrichissement de l'uranium, dont un programme électronucléaire passe par. Mais le Niger est un pays souverain qui n'a pas besoin de quitus ni de la communauté internationale, ni d'un autre pays. Mais le Niger s'est engagé souverainement à suivre scrupuleusement les recommandations de l'agence, telles que les recommandations de transparence. Notre programme est transparent. Les gens viennent, ils voient chaque étape. Donc, on n'a pas besoin de quitus de qui que ce soit. Et quand on dit un pays est souverain, ce n'est pas uniquement vis-à-vis du colon. C'est aussi vis-à-vis de ses propres contraintes, vis-à-vis de ses propres contraintes intérieures. Par exemple, aujourd'hui, on a des contraintes financières, mais si le pays est souverain, on doit pouvoir surmonter cela. On dit qu'on a des contraintes de disponibilité en ressources en eau. Un pays souverain doit pouvoir surmonter la disponibilité de ressources en eau.
Le Niger n'a pas besoin d'avoir des quitus pour développer
son... Aucun pays n'a besoin de quitus pour faire un programme électronucléaire. C'est la décision souveraine
des États. À défense civile.
À défense civile. C'est la décision souveraine d'un État. Mais si l'État décide, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire l'accompagne.
Alors, une dernière question. Donc, le Niger n'aura jamais, ne devrait pas avoir cette idée de penser à l'arme nucléaire.
Cela n'est pas moi...
D'autant que c'est l'un des plus grands...
Ce n'est pas mon sujet de tout. Je ne suis pas dans ce domaine. Mais c'est que, pour information, je vais vous dire que le Niger a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc, s'est engagé à ne ni favoriser ni aider quelqu'un pour faire des dispositifs explosifs contenant de la matière nucléaire.
Et c'est sur ces mots que prend fin le forum de ce soir, programme énergie nucléaire, Niger Horizon 2030, comment atteindre l'objectif, pour quels résultats. Nous étions avec Djibo Takoubakoy Daouda, directeur chargé à l'électro-nucléaire pour l'horizon 2030 au niveau de la HANIA, la Haute Autorité Nigérienne à l'énergie atomique. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes pour partager avec nous ces programmes ambitieux, ces objectifs. Nous l'avons vu, le programme électronucléaire est bel et bien réaliste selon les dires de Takoubakoy Daouda. Un programme électronucléaire qui prévoit deux centrales de 1000 MW chacune, qui à terme va en tout cas permettre la création d'au moins 150 000 emplois permanents et quelques 1000 petites et moyennes entreprises. Merci, bonne soirée.